Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
8h40 en temps universel, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, la deuxième partie de cette émission. Comme tous les vendredis, vous commentez l'actualité de votre choix. C'est l'occasion évidemment de revenir sur les sujets qui font la une, mais aussi de nous interpeller, de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous. En tout cas, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider du contenu de l'émission. 33 9 693 693 70. Et vous êtes encore nombreux à souhaiter réagir à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, acquittement surprise, c'était vendredi dernier. Jean-Pierre Bemba, rappelons-le, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, ancien vice-président congolais, ancien chef de guerre congolais. Il a donc vu vendredi dernier sa culpabilité annulée en appel devant la CPI. Beaucoup de réactions de RDC, notamment de Kinshasa, mais aussi de Centrafrique où c'est, et on l'entend, la consternation pour les milliers de victimes des commises entre 2002 et 2003 en Centrafrique par les hommes de Bemba. Mais d'abord, la réaction de Willy qui est à Kinshasa. Bonjour Willy.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous vous saluez une victoire judiciaire.
Exactement Juan. Je salue la victoire judiciaire parce que qu'il s'agisse de la condamnation ou de l'acquittement, c'est le droit qui aurait parlé. Et les gens qui aiment la justice doivent se réjouir qu'il y a une décision judiciaire. Et ça, ce n'est pas un problème. Je salue cet acquittement. Mais néanmoins, il faut ajouter à cela le fait que sa mise à liberté provisoire ne doit plus inquiéter. Parce que pour quelqu'un qui a fait 40 ans célibataire, si on lui promet le mariage dans une année, il ne peut pas dire insupportable. Il a fait 10 ans en détention. Si on lui donne encore même quelques mois ou une année pour attendre définitivement la fin de la chose, je ne trouve pas d'inconvénient.
Ouais. Enfin, il est poursuivi pour une autre affaire, une deuxième affaire. Il est d'ailleurs en liberté provisoire en attendant le verdict de cette deuxième affaire. Verdict attendu le 4 juillet, dit-on. Mais vous dites que c'est une victoire judiciaire. J'ai pu lire sur la page Facebook de l'émission des centaines de réactions d'auditeurs. Par exemple, Bienfait qui lui parle, oui, d'une bonne nouvelle, mais qui trahit la Cour pénale internationale, car ce n'est pas par hasard si cet acquittement est prononcé la veille du dépôt des candidatures en République démocratique du Congo en vue de l'élection présidentielle. Alors l'auditeur dit la veille, mais le dépôt des candidatures est prévu dans un tout petit peu plus d'un mois, c'est-à-dire le 25 juillet. Certains s'étonnent du calendrier de la Cour pénale internationale.
Mais non, mais il ne faudra pas qu'on lit l'acquittement de Jean-Pierre Bemba aux élections au Congo. Parce que la Cour pénale internationale n'est pas une cour constitutionnelle congolaise. Étant donné que nous avions eu les élections en 2011, pourquoi on ne l'avait pas laissé en 2011 alors qu'il y avait élection? Et si c'est arrivé aujourd'hui, c'est un problème d'élection. Je crois que les gens qui lisent ça ont d'autres lectures de ce qui se passe. Ouais. Jean-Pierre Bemba n'avait pas un problème judiciaire à la CPI avec la RDC. C'était avec Centrafrique qui n'est pas son pays.
Alors Willy, restez en ligne. Je voudrais que, si vous le souhaitez, évidemment, rien n'est obligatoire, dialoguer peut-être, si vous le voulez, avec Stéphane, qui est à Lille, qui est centrafricain. Stéphane qui se dit, lui, consterné par l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, je vous entends pas très bien dans mon casque. Vous êtes à Lille, vous êtes en France, on pourrait avoir un meilleur réseau de téléphone. Peut-être déplacez-vous.
Oui.
Ça va mieux, allez-y.
Tout porte à croire, Juan, que la décision de l'acquittement de Bemba sort du cadre juridique. On est là dans un cadre politique. C'est ce que nous regrettons. Hein, car d'aucun doute sur la matérialité des faits et de son implication directe ou indirecte dans les crimes qui ont été commis en République centrafricaine. Il peut être jugé coupable ou comme criminel ou encore comme complice. parce qu'il a assisté matériellement à ces crimes qui ont été commis en République centrafricaine.
Alors, et vous dites qu'il a assisté matériellement, c'était effectivement ces hommes qui, rappelons-le, pour ceux qui découvrent cette affaire, étaient partis en Centrafrique pour tenter de sauver le régime d'Ange-Félix Patassé qui était menacé par une rébellion. Et durant plusieurs mois, les hommes de Bemba ont tué, ont pillé, ont violé. Et on se souvient qu'il y a 2 ans, la Cour pénale internationale l'avait condamné donc à 18 ans de prison, en invoquant la notion de supériorité hiérarchique. Autrement dit, en tant que chef de milice, Jean-Pierre Bemba était forcément responsable des exactions commises par ses troupes. Le problème, c'est qu'au moment des faits, Jean-Pierre Bemba n'était physiquement pas présent en Centrafrique.
Ça, c'est démontré que Jean-Pierre Bemba habitait l'hôtel du centre. Il était dans un pick-up blanc.
Stéphane, c'est très désagréable. Je peux pas discuter avec vous. Le réseau est brouillé. Je ne sais pas où vous êtes. Peut-être sortez, déplacez-vous, parce que sinon, voilà, c'est compliqué d'avoir une discussion avec vous. Benjamin, vous êtes à Bangui. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous êtes en Centrafrique. Vous partagez la consternation de Stéphane à l'instant?
Non, moi je ne peux pas raisonner de la même manière que mon prédécesseur, simplement parce que moi je me dis, en tant que Centrafricain, monsieur Bemba a été, je peux dire, invité sur le territoire centrafricain par un gouvernement, et qu'une fois ces troupes sur le territoire national, ces troupes ont été encadrées par l'armée centrafricaine. Donc moi je pense que la responsabilité de ceux qui l'ont invité et de ceux qui ont encadré ces troupes sur le terrain aussi engagée. Mais quand on voit que seul monsieur Bemba qui est poursuivi, c'est du fait que les gens qui avaient invité M. Bemba continuent de vaquer à leurs occupations tranquillement. Et pourquoi on continue de vivre dans un cycle permanent de violence et de crise? Parce que les auteurs centrafricains de cette crise ou bien de ces crimes ne sont jamais poursuivis. Oui. Et donc moi je pense que libérer M. Bemba, ça ne fait ni chaud ni froid. Ça c'est un règlement de compte purement politique de la RDC, mais moi... j'aurais souhaité que les acteurs centrafricains, les auteurs centrafricains aussi soient poursuivis au même titre que M. Bemba.
Oui, ça a été donc une erreur stratégique de la Cour pénale internationale et notamment de l'ancien procureur Moreno Ocampo d'avoir poursuivi qu'un seul homme, en l'occurrence Jean-Pierre Bemba. Vous dites en substance, si je comprends bien, il aurait dû poursuivre notamment les centrafricains qui étaient aux côtés des hommes de Bemba. Il y a un nom qui est souvent cité, le général Mustapha Mukiza. Vous pensez qu'il lui aussi aurait dû être inquiété par la Cour?
Oui, naturellement. C'est lui qui commandait les troupes de M. Bemba sur le terrain. Donc c'est lui qui était vraiment sur la ligne de front. Mmh. Et l'autre problème aussi, quand les troupes de Bemba sont en Centrafrique, on a souvenir que l'armée centrafricaine les encadrait sur le terrain. Donc ils commettaient ce crime avec l'assistance ou bien devant la passivité de l'armée centrafricaine. Donc le chef d'état-major d'alors, le premier ministre d'alors, même si M. Patassé n'est plus en vue, mais les autres personnalités qui avaient fait venir les troupes de Bemba doivent être aussi poursuivies au même titre que M. Bemba.
Bon, on verra si la Centrafrique engage des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes que vous venez de citer, en tout cas ceux qui étaient aux affaires et qui étaient aux commandes au moment des faits, au début des années 2000, 2002, 2003, d'autant que la Centrafrique est désormais équipée, juridiquement parlant, puisqu'il existe cette cour spéciale mise en place il y a un peu plus d'un an, mais qui est effective depuis maintenant quelques jours. Merci à vous. Autre sujet qui a retenu votre attention, en tout cas celle de Yakou qui est à Ouagadougou, c'est le dossier François Compaoré. Bonjour Yakou.
Oui, bonjour.
François Compaoré, rappelons-le, le frère de l'ancien président du Burkina Faso, il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Un mandat d'arrêt a été mis contre lui par le Burkina Faso. Il a été arrêté il y a quelques mois en France, donc suite à ce mandat d'arrêt. Et cette semaine, la justice française était appelée à statuer sur le cas de François Compaoré. Finalement, la justice française a renvoyé sa décision le 3 octobre. Vous êtes déçu, vous, par le comportement de la justice française? Vous avez l'impression qu'elle traîne des pieds?
Oui, c'est tout à fait exact, parce que vous voyez, au Burkina, ici, sur 5 personnes, sur 5, pensent que François Compaoré est totalement impliqué dans cet assassinat-là. Et il y a eu préliminairement des enquêtes. On a eu, au Burkina, ils avaient mis en place une commission qui a travaillé et la commission a rendu son rapport. Dans les rapports, François est bel et bien impliqué. Bon, à notre grande surprise, on a en tout cas avait eu la joie au cœur au Burkina ici qu'il avait été interpellé à Paris et que bon, des procédures étaient en cours pour son extradition. Et à notre grand étonnement, on nous dit non, que ça a été reporté et que bon, le Burkina doit apporter des preuves tangibles et autres. Nous, nous pensons honnêtement que la justice française est en train de traîner les pieds et que cette affaire-là, ils sont en train de vouloir jouer avec quelque chose de très important, quelque chose de très historique pour le peuple burkinabé.
Oui.
Parce que vous savez que le crime du journaliste célèbre Norbert Zongo a ébranlé le Burkina Faso pendant des années. Et même aujourd'hui, c'est comme si le crime venait d'être commis hier. Les gens attendent fermement que le droit soit dit, que les coupables soient connus et qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leurs forfaits. On ne peut pas comprendre que toute une nation qui attend, j'allais dire, un procès aussi historique, et la France, en tant que partenaire et colonisateur du Burkina Faso, je ne pense pas que ce pays-là doit gérer cette affaire-là comme ça.
Bon. En tout cas, bon, là, j'entends votre impatience, Yacou, vous souhaitez absolument un procès concernant la mort du journaliste Norbert Zongo en 98, et vous êtes des milliers au Burkina à attendre un tel procès. La justice française, j'ai envie de dire, elle a son rythme, et le rythme de la justice n'est pas forcément notre rythme à nous d'être humain, il y a des procédures. La France demande à la justice du Burkina Faso de lui fournir des éléments matériel, plus précis, justement pour essayer de prouver l'implication de François Compaoré dans cet assassinat. La justice du Burkina a trois mois pour fournir ces éléments et ensuite évidemment elle statuera sur une extradition ou non de François Compaoré vers le Burkina Faso. Dossier à suivre, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. En tout cas, merci à vous de nous avoir contactés. Je vous souhaite une bonne journée à Ouagadougou. Et si nous parlions maintenant de la Coupe du Monde de football, alors non pas celle qui se déroule en ce moment en Russie, on en a longuement parlé tout à l'heure en première partie avec Antoine Grenier et Alejandro Valente, mais de celle qui se tiendra en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, puisque vous le savez, cette semaine, la FIFA a tranché et elle a préféré le dossier nord-américain à celui du Maroc. Bonjour Souleymane.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes déçu, vous, par le choix de la Guinée, par le choix de la FIFA, j'ai fait un lapsus, d'autant plus déçu que vous êtes en Guinée et qu'il semblerait que le président de la Fédération guinéenne de football a voté pour le dossier nord-américain plutôt que pour le dossier marocain.
Bon, j'avoue que c'est incompréhensible pour nous, Guinéens, puisque le Maroc aurait dû être notre choix naturel, parce qu'une Coupe du Monde au Maroc, ce serait comme si c'était en Guinée, quoi. Le Maroc, ça a 3 heures de vol, il n'y a pas de visa, et on a une grande communauté guinéenne au Maroc. Donc pour nous, une Coupe du Monde au Maroc aurait été souhaitée.
Oui. Mais attendez, vous dites que c'est naturel que la Guinée vote pour le Maroc, c'est d'autant plus naturel, excusez-moi, et je me permets juste d'intervenir, c'est qu'officiellement, la Guinée, depuis le début, a fait campagne en faveur de l'attribution de la Coupe du Monde au Maroc.
Et mieux, la Guinée prétend avoir voté pour le Maroc. Voilà, à ce jour.
Oui.
Parce que Monsieur Soaré dit qu'il a voté pour le Maroc. Donc là-dessus, voilà, on attend qu'il y a des enquêtes. Mais pour cela, il faudrait, je suppose, que Monsieur Soaré dépose une plainte. Oui. J'ignore les procédures internes à la FIFA, mais bon.
Voilà. Oui, alors juste parce que Monsieur Soaré, étant le président de la Fédération guinéenne de football, lui assure, la main sur le cœur, qu'il a voté pour la Guinée. Et visiblement, dit-il, mais il y a eu un problème informatique. J'ai appuyé sur le bouton bouton Maroc, et quand on regarde attentivement les votes, la Guinée a effectivement voté pour le dossier nord-américain. Donc il y a incompréhension. Vous êtes convaincu que votre pays a voté finalement pour le dossier États-Unis, Mexique, Canada ?
J'avoue que là-dessus, je n'en sais trop rien. Je n'en souviens. Mais bon. Aujourd'hui, moi, ce qui me choque aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai appelé réellement,
allez-y,
c'est l'intervention de Donald Trump. Et que pour moi, j'estime que ça s'apparente à de la corruption. Aussi simple que ça. Voilà.
Là aussi, Souleymane, pensez à ceux qui nous écoutent. L'intervention de Donald Trump, vous faites référence au tweet de Donald Trump il y a plus d'un mois qui menaçait les pays qui ne voteraient pas pour lui en leur disant si vous ne votez pas pour notre dossier de candidature, on ne vous soutiendra plus.
Exactement. Ça s'apparente à de la corruption. Pour moi, la FIFA n'aurait même pas dû tenir cette assemblée et octroyer définitivement attribuer l'organisation au Maroc. Parce que ça ne se fait pas, ça ne devrait pas se faire. Qu'un président, quand on connaît tout le poids de l'aide américaine, ça ne devrait pas se faire.
Mais, alors si on va un peu plus loin, et si on est dans la spéculation, puisqu'on bon, on parle football, donc dès qu'on parle football, on est souvent dans des scénarios peut-être improbables, mais vous pensez que la Guinée a peut-être eu peur du tweet de Donald Trump ?
Non, officiellement, si la Guinée avait eu peur...
C'est pas officiellement, c'est votre point de vue à vous qui m'intéresse, votre point de vue à vous.
Non, ce que j'ai dit, si la Guinée avait eu peur, elle n'aurait pas fait campagne pour le Maroc. Excusez-moi.
Bon, j'ai du mal à aller jusqu'au bout du raisonnement et de comprendre votre raisonnement jusqu'au bout. Jean-Lucien est avec nous. Lui aussi souhaite rebondir sur ce dossier. Bonjour Jean-Lucien.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Yaoundé, vous avez suivi comme tout le monde évidemment les résultats et le verdict de la FIFA. Qu'en pensez-vous ?
Oui, ben, naturellement j'ai été très déçu. Très déçu parce que j'ai compris qu'une fois de plus, l'Afrique n'a aucun pouvoir, l'Afrique n'a aucun poids. Vous savez, le football, c'est le sport en Afrique. Moi, je ne sais pas, M. Gomez, mais je suis sûr d'une chose. Vous connaissez au moins quelques footballeurs africains, mais vous ne pouvez pas m'en citer un seul du Canadien. Hein? Ou vous ne pouvez pas me donner de grands footballeurs, des noms de grands footballeurs américains. C'est dire que on est très déçus. Le football chez nous, c'est une religion.
Bien sûr. Mais est-ce que vous...
Attendez.
J'entends, je comprends votre déception. En même temps, ne serait-ce qu'au niveau des pardon des infrastructures, le dossier je sais pas pourquoi je veux parler de nord-coréen. Nord-américain était au-dessus quand même.
Oui, mais si on ne tient compte que de ça, la candidature du Maroc n'aurait même pas été validée par la FIFA. Si elle a été validée et qu'on soit allé jusqu'au vote, ça veut dire que la candidature du Maroc, les infrastructures que le Maroc présentait, parce qu'elles ont été visitées par les instances de la FIFA, tenaient la route et répondaient aux normes parce qu'il y a un cahier des charges. Et le Maroc remplissait bien ce cahier des charges. Moi, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que les grands seront intéressés par un événement, l'Afrique n'aura jamais de chance. Et je trouve que dans le football où on fait la promotion du fair play, ce n'est qu'un fair play pour les petits. Il n'y a pas de fair play pour les grands.
Mais non, mais là, vous êtes en train de vous en prendre, comme vous dites, aux grands, pour reprendre votre expression. Il faut s'en prendre aussi aux fédérations africaines de football. Excusez-moi, vous avez 11 pays du continent qui n'ont pas voté pour le Maroc. Et pourtant, cette candidature, elle était annoncée comme la candidature de l'Afrique. Donc, il faut s'en prendre. Faut les citer la Guinée, la Namibie, le Libéria, le Lesotho, le Mozambique, le Bénin, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, le Zimbabwe ont voté pour la candidature nord-américaine.
Oui, mais Monsieur Gomez, si vous voulez, avant ça, il y avait une unité derrière la candidature marocaine. Mais le tweet de Monsieur Trump a tout changé parce que je vais vous dire, quoi qu'on pense, beaucoup de pays, beaucoup de candidats, des électeurs ont eu peur de ce que des réactions des États-Unis. Parce que ce que M. Trump a dit, effectivement, il pouvait le mettre en pratique.
Bien sûr, Trump menaçait de sanctionner les pays qui ne voteraient pas pour le dossier nord-américain. Merci à vous, en tout cas. C'était instructif d'avoir justement vos réactions sur cet énième échec marocain. Le Maroc qui va tenter une fois de plus de décrocher la Coupe du Monde pour 2030. Amos, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes en région parisienne, il nous reste une petite minute trente, on va être bref et court, mais je suis sûr que ce sera intense. Vous souhaitiez revenir sur la rencontre historique de mardi entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Oui, tout à fait Juan. En effet, je voulais dire que de cette rencontre, je crois que c'est Kim Jong-un qui est le maître du jeu. Imaginez, l'année passée, les deux présidents se sont invectivés très fortement. Et je crois que Kim Jong-un, pour couper l'herbe sous le pied de Donald Trump, a pris de l'avance en tendant la main à la Corée du Sud. Ça fait donc que Donald Trump, qui menaçait de détruire la Corée du Nord, sachant qu'il ne pouvait pas le faire, Donald Trump ne pouvait marcher, ne pouvait qu'accepter la main tendue de Kim Jong-un. Parce que lorsque Kim Jong-un a terminé ses essais nucléaires, il a dit, bon, là maintenant, je suis disposé à discuter avec les États-Unis. Et lorsqu'on sait que, lorsque vous détenez l'arme nucléaire, on ne peut pas vous faire n'importe quoi. Vous suscitez le respect. Et c'est ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. La Corée du Nord a bien joué le jeu. Et là, aujourd'hui, elle estime que elle peut discuter avec les États-Unis.
Donc la Corée du Nord, pour vous, est la grande gagnante de ce sommet. Mille excuses, vraiment, pour les réseaux téléphones, même les auditeurs qui nous appellent de France, les liaisons n'étaient pas bonnes. On va essayer de régler tout ça, nettoyer tout ça pour lundi matin. Bonjour.